Les matins de France Culture.
La revue de presse internationale de Thomas Cluzel. Bonjour Thomas.
Bonjour Guillaume.
Ce matin, le test d'une bombe H par Pyongyang hier provoque une véritable onde de choc.
Oui, la photo diffusée par l'organe de presse officiel du régime est à la une de très nombreux quotidiens ce matin, à l'instar du Wall Street Journal. On y voit le leader nord-coréen entouré, comme à son habitude, d'officiels obséquieux en train d'examiner un objet métallique avec de gros boulons posés sur un trépied, la fameuse bombe H miniaturisée, ainsi que l'atteste la légende. L'homme à sa droite l'invite à s'approcher de la chose et semble lui signifier qu'il peut même la toucher, sous-entendu sans risque qu'elle ne lui explose à la figure. Kim Jong-un tend la main, les autres militaires à ses côtés regardent les doigts du petit dictateur s'approcher de la bombe et dans leur regard légèrement anxieux, on lit cette question: va-t-il oser? Sur un autre cliché, Kim Jong-un a cette fois-ci la main bien posée sur l'engin et tous autour de lui sont hilares, manière de féliciter le président, rassuré aussi peut-être de constater qu'en effet la bombe n'a pas explosé.
Alors aujourd'hui, une question et une seule intéresse tout le monde, Thomas. Jusqu'où ira Kim Jong-un?
Oui, après le test réussi hier d'une bombe à hydrogène plus puissante que celles qui ont rasé Hiroshima et Nagasaki, plus personne ne semble vouloir hausser les épaules et se dire qu'il ne s'agit là que d'un énième épisode de la saga nucléaire nord-coréenne. D'autant que si jusqu'à présent certains pouvaient encore douter des progrès réalisés par Pyongyang dans son programme nucléaire, les révélations du Washington Post la semaine dernière ont fini par jeter un froid. Selon les conclusions d'un rapport confidentiel achevé le mois dernier par l'agence américaine de renseignement militaire, Pyongyang a réussi à adapter suffisamment la taille de ses têtes nucléaires pour pouvoir les placer sur ses missiles intercontinentaux et ainsi faire peser la menace d'une attaque nucléaire, en particulier sur les États-Unis. La réaction de Donald Trump d'ailleurs n'a pas tardé, aussitôt l'Amérique réveillée dans le style qui lui est familier. Le président américain a réagi sur son profil Twitter en 3 messages pour dénoncer à la fois un État voyou malgré les efforts de la Chine qui essaye d'aider et alors que les Coréens du Sud, eux, comprennent enfin que l'apaisement ne marchera pas. Alors bien entendu, il n'en fallait pas davantage pour que nombre d'experts outre-Atlantique mais aussi au Japon et en Corée du Sud ne cachent plus leur inquiétude au sujet d'une opération militaire de Washington et ils ne craignent pas seulement une arme nucléaire mais aussi et surtout en cas de représailles de Pyongyang, une réplique conventionnelle dévastatrice. Car la Corée du Nord a beau être rongée par la faim et la pauvreté, elle dispose de forces conventionnelles qui pourraient anéantir des quartiers entiers de Séoul. Le chef du Pentagone, le général Mattis, en est d'ailleurs parfaitement conscient, lui qui ne craint même plus de contredire le président américain pour rappeler qu'on n'est jamais à court de solutions diplomatiques. Reste qu'entre les déclarations à l'emporte-pièce d'un président américain dont on va même jusqu'à questionner la stabilité mentale d'un côté et les provocations absurdes du dictateur nord-coréen de l'autre, tous les ingrédients d'une crise majeure aux conséquences incalculables sont désormais réunis. La maladive soif de reconnaissance de l'un comme de l'autre rend cette crise susceptible de dégénérer de façon imprévisible, juge notamment le quotidien suisse Tages Anzeiger. Alors que faire, interroge son confrère Le Temps. Les circonstances, écrit l'éditorialiste, exigent une diplomatie à la fois musclée, urgente et sincère. L'initiative ne viendra pas de Pyongyang. Elle doit donc venir des États-Unis, de la Chine, de la Corée du Sud et du Japon, sans oublier la Russie. Le quotidien chinois Wangqiu Shibao ne dit pas autre chose, Guillaume, en appelant à l'ouverture d'un dialogue direct entre Pyongyang et Washington.
Un autre coup de tonnerre largement commenté dans la presse, Thomas, la décision ce week-end de la Cour suprême kényane d'invalider la victoire du président sortant.
Oui, toute la presse nationale salue la décision historique et courageuse de la Cour qui a annulé pour irrégularité l'élection présidentielle. The Daily Nation en particulier soutient que l'annulation du scrutin est la preuve de la suprématie de l'état de droit et de la maturation de notre démocratie. Un grand jour pour le Kenya, mais aussi un exemple pour le reste du monde et en particulier l'Afrique, se réjouit de son côté The Daily Star qui annonce néanmoins des jours difficiles pour le pays. Les Kenyans devront revoter d'ici 2 mois. Or, il y a 10 ans, Guillaume, on se souvient que les contestations post-électorales avaient provoqué un véritable bain de sang.
Enfin, hier soir avait lieu une confrontation très attendue en Allemagne, Thomas, l'unique débat télévisé entre Angela Merkel et Martin Schulz.
Oui, un duel décisif que de très nombreux journaux, à l'instar d'Handelsblatt, avaient qualifié de celui de la dernière chance pour le candidat SPD à la traîne dans les sondages face à sa rivale, dont la spontanéité et l'éloquence ne sont pas vraiment les premières des qualités. Schulz espérait sans doute tourner la situation à son avantage, en vain a priori, d'après les premiers sondages effectués par les chaînes de télévision publique. La chancelière a été jugée plus convaincante, 55% contre 35% pour son adversaire selon l'enquête ARD et 32 contre 29 selon celle de ZDF. Schulz marque, mais c'est Merkel qui l'emporte, titre la Frankfurter Allgemeine Zeitung.
Merci beaucoup Thomas Cluzel.